Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce matin, le Seigneur veut faire son œuvre dans nos cœurs et dans les relations. Vendredi, je partageais sur être de plus en plus fort dans son caractère. Et une façon d'être de plus en plus fort dans son caractère, c'est d'apprendre à dire la vérité. On avait vu ensemble combien il était dangereux de mentir parce que le mensonge détruit les relations. Le mensonge fait des dégâts et laisse des bleus dans l'âme qui parfois pour certaines personnes peuvent mettre des semaines et des mois avant de voir des années, avant réellement de refaire confiance et de s'en sortir. Et on a vu donc le mensonge brise les relations et emmène une méfiance, détruit la confiance. Et que Dieu recommande à son peuple de marcher dans la vérité. Il recommande à son peuple d'être vrai et de dire la vérité les uns les autres. On a vu que Dieu a en horreur le mensonge dans Proverbes 8, verset 7. Et dans Éphésiens 4, verset 5, il dit « Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. » Et on a vu donc que il est important pour nous de grandir dans la vérité. Pourquoi ? Parce que beaucoup se sont levés vendredi blessés par le mensonge et la trahison. Et beaucoup se sont levés en disant « J'ai besoin d'être guéri dans mon cœur parce que une relation mensongère dans le passé a brisé mon cœur. Et aujourd'hui, je suis fragilisé et je n'arrive pas à faire confiance et plusieurs se sont levés et Dieu a guéri plusieurs par sa bonté, par sa grâce. Je disais vendredi que si nous voulons réapprendre à faire confiance, il est important de grandir dans la vérité. Parce que la confiance est le fondement de toute relation stable. Mais la vérité est le fondement de la confiance. C'est très important. Et donc, ce matin, on va voir ensemble comment faire pour établir ou rétablir une relation de confiance. Ou plutôt, la confiance dans les relations. Comment donc établir ou rétablir la confiance dans les relations? Je crois que nous sommes ici tous des êtres relationnels et si je vous demande qui a envie d'avoir dans sa vie des relations de confiance autour de lui? Amen, c'est bien, tu es humain. Nous avons besoin, vous et moi, de relations de confiance, c'est très important. Et une donc des façons de devenir de plus en plus fort dans son caractère, c'est de devenir une personne de confiance. Et si tu grandis dans la vérité, tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut se fier, en qui on peut se fier, quelqu'un en qui on peut se confier. Quelqu'un de caractère, ce n'est pas quelqu'un qui crie fort. Souvent on dit lui ou elle a beaucoup de caractère, toujours en train de causer premier et lever la main. Quelqu'un peut parler fort et ne pas être une personne de confiance. Dire lui il a du caractère, il dit toujours ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense, mais il dit rien que des bêtises. Donc, il est important pour nous de revoir ce que signifie réellement le caractère. On a vu ensemble que le caractère est composé de plein de qualités comme le courage, comme la discipline, la fidélité, la loyauté, la vérité. Mais le caractère, quelqu'un de caractère est quelqu'un de confiance. Peut-être qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Peut-être qu'il ne va pas forcément prendre la parole tout le temps, mais il est fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut se fier. Et il est important pour nous de grandir dans cette qualité qu'est la confiance. Parce qu'on a tous quasiment levé la main sur on veut avoir des relations de confiance, mais la première des choses à faire, c'est que nous devenions nous-mêmes des personnes de confiance. Amen. Alors, rappelons-nous ceci. La vérité rend possible la confiance. Si on ne grandit pas dans la vérité, il n'est pas possible de grandir dans la confiance. Il faut apprendre à être vrai. Il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour pour instaurer, établir une relation de confiance. Jésus dit et il prie dans Jean 17 pour que nous devenions un. Il n'est pas possible de devenir un sans confiance. C'est très clair. Il n'est pas possible d'avoir de relations fortes sans confiance. Il n'est pas possible d'avoir une unité forte sans confiance. Imaginons, je ne sais pas moi, une troupe d'élite militaire, le GIPN, chacun a différentes personnalités. Il y en a qui peuvent parler fort et d'autres timides qui vraiment ne vont pas trop vouloir parler en public. Mais quand il est au combat, on peut compter sur lui. Parce que ses coéquipiers connaissent que c'est quelqu'un de caractère. Au lieu de quelqu'un qui toujours parle et est prêt à dire ce qu'il pense et à crier s'il faut et dire moi ceci, moi cela, mais dans le combat, c'est le premier à fuir. Et on ne peut pas compter sur lui. Être quelqu'un de confiance, c'est important. Et cela n'est impossible si on ne grandit pas dans la vérité. Amen. Donc de manière pratique ce matin, pour ne pas être trop long, pouvoir prier pour vous, comment faire pour grandir dans la confiance? Comment faire pour établir la confiance dans les relations? Mari, femme, au travail, dans les équipes, parents, enfants, comment faire pour restaurer la confiance, la rétablir lorsqu'elle a été perdue? C'est pas facile, mais pourtant, c'est possible. Donc, il n'est pas possible d'établir la confiance sans la vérité. C'est la vérité qui rend possible la confiance. Ça, c'est le point de base, parce que la vérité, c'est le fondement pour la confiance. Mais j'aimerais partager avec vous 4 points rapides en ce qui concerne la vérité pour installer une relation de confiance ou restaurer une relation de confiance. Le premier point, c'est qu'il faut, lorsque la relation est brisée ou lorsque la relation grandit, qu'il y a un désaccord, que le pardon soit vrai. Le point de base, pour commencer, il faut que le pardon soit vrai. Il ne faut pas que le pardon soit un pardon superficiel. Mais attention, il est important de ne pas confondre pardonner et faire confiance. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu peux pardonner à tes ennemis, mais tu fais erreur si tu les fais confiance. C'est des ennemis. Tu peux pardonner à celui qui te fait du mal, mais il y a une différence entre pardonner et faire confiance. Il ne faut pas confondre les deux. Construire la confiance met à contribution au moins 2 personnes. Parce que la confiance se construit à 2, au minimum. Pardonner implique d'abord toi tout seul, même si c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal. Parce que lorsque tu pardonnes, que la personne est d'accord ou que la personne n'est pas d'accord, que la personne est contente que tu demandes pardon ou elle n'est pas contente que tu demandes pardon, peu importe son avis, quand tu pardonnes, ça dépend de toi. Et quand tu pardonnes, tu ne libères pas la personne, tu libères toi. De la rancœur, de la haine, de l'offense. La première personne que tu libères quand tu pardonnes, c'est toi. Donc le pardon implique surtout toi et ta volonté. Le pardon est une marque d'amour, comme Dieu nous a pardonné parce qu'il nous a aimés. À notre tour, nous pardonnons parce que nous voulons aimer aussi en retour. Le pardon, c'est l'amour qui fait justice. Mais pardonner, ce n'est pas faire confiance. Pas tout de suite en tout cas. Pour établir la confiance, pardonner c'est bien, c'est le début, mais ce n'est pas tout. Il y a un cheminement. Donc tu commences d'abord par le pardon, et ensuite, tu commences à travailler la relation. N'oublions pas, il faut que le pardon soit sincère. Et notre pardon est vrai lorsque nous réalisons que lorsque nous péchons toujours devant Dieu. Je disais vendredi, en prenant l'exemple d'Ananias et Saphira, n'oublions pas que notre première audience, ton premier auditeur, où que tu sois, c'est le Seigneur. Que tu sois tout seul chez toi, dans la feuille noire, que tu te caches quelque part, ton premier auditeur, c'est le Seigneur. Et ça, c'est important. On a vu dans Actes 5, 4, l'apôtre Pierre dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il avait oublié que lorsqu'il péchait, il pêche contre Dieu. On oublie que lorsqu'on ne pardonne pas, on pêche contre Dieu. Même si la personne nous fait du mal, lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'on a oublié Dieu. On a oublié qu'il est notre première audience. On a oublié que c'est lui d'abord qui nous entend, que c'est lui d'abord qui nous écoute, et que le pardon délivre celui qui pardonne. Le problème est là. Encore une fois, le pardon est superficiel lorsqu'on oublie que Dieu est notre audience principale. Et j'aimerais te dire ceci, la crainte de l'Éternel, c'est ne jamais oublier que nous sommes redevables envers une seule audience, Dieu. Que tu sois là ce matin, que tu sois ailleurs ce midi, où que tu sois et où que je sois, Dieu voit. On a vu un passage qui dit « Les ténèbres sont lumière pour lui. » Même Satan ne peut pas se cacher. Et c'est important pour nous de réaliser ça. Il faut que le pardon soit vrai. Il ne faut pas que le pardon soit superficiel. Et le pardon est vrai lorsqu'on réalise qu'il est notre audience. Il est notre principal auditeur. Et quand quelqu'un me fait du mal ou quand je fais du mal à quelqu'un, d'abord, c'est à Dieu qu'on fait du mal. Donc, le premier point pour rétablir la confiance dans les relations, c'est qu'il faut que le pardon soit vrai. Parce que la vérité, c'est le fondement pour la confiance. Le deuxième point, il faut que la repentance soit vraie. Là aussi, c'est important. Nous confondons souvent pardon et repentance. Pardonner, ce n'est pas se repentir. La repentance implique beaucoup plus que le pardon. Si tu es innocent et que quelqu'un te fait du mal, tu le pardonnes. Mais toi, tu n'as pas à te repentir. Mais l'autre, peut-être si, sûrement. Et donc, il faut que la repentance soit vraie. On parle souvent ici à l'Église que la repentance, et c'est vrai, c'est une façon nouvelle de penser. Si tu penses autrement pour changer de comportement, c'est vrai. La repentance, c'est penser autrement. C'est comme disait le pasteur Bruno, si tu as un trou et tu es tombé 4 fois dedans, change de façon de faire et marche de manière opposée. Marche différemment. Pense autrement. C'est ça, se repentir. Se repentir signifie remonte la pente. Mais j'aimerais te dire ceci, que la vraie repentance commence souvent lorsqu'on est attristé. Trop de gens veulent se repentir, mais ils ne sont pas tristes. Ils ne sont pas tristes d'avoir péché. Ben, Seigneur va pardonner. Pardon, Seigneur. Ben, écoute, pardonne-moi. Mais le cœur n'est pas touché. Comment toucher le cœur de Dieu lorsque notre cœur nous-mêmes n'est pas touché? Donc on se repent, Mais c'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas d'abord attristé d'avoir fait le mal. Il faut que le pardon soit vrai, mais il faut que la repentance soit vraie aussi. Pour rétablir la confiance dans les relations. Très important. C'est pas uniquement renouveler sa façon de penser, oui c'est ça. Mais souvent les gens n'arrivent pas à renouveler leur façon de penser ou changer de comportement parce qu'ils ne sont pas tristes. Ils ne sont pas attristés d'avoir péché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié que lorsqu'on pêche, on pêche d'abord envers Dieu. Ananias avait oublié cela. Et c'est une dimension, une portion de la repentance qu'il ne faut pas négliger. 2 Corinthiens 7, 9 nous dit ceci. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. À salut qui sauve. Wow. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui sauve. Dont on ne se repent après plus jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a donc une bonne tristesse et il y a une mauvaise tristesse. La repentance, la vraie, est une tristesse selon Dieu qui produit la vie, qui sauve, qui attire la justice, qui libère des chaînes du péché. Dans une autre version, 2 Corinthiens 7, 9, toujours. Mais maintenant, je suis dans la joie, dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Waouh ! Parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu. Et ainsi, nous vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. Ça, c'est la vraie repentance. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés. Et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort, les remords, la condamnation. Enlève l'espoir. Elle est destructrice. Mais quand celui qui se repent vraiment, lorsqu'il fait du mal, lorsque tu parles mal à ta femme, lorsque tu commets des erreurs par rapport à tes enfants, lorsque tu commets des erreurs avec ton équipe, mais tu es triste d'avoir attristé ce que tu aimes. Tu es triste d'avoir attristé le cœur de Dieu. Et cette tristesse te touche au fond de toi-même. Cette tristesse-là, elle produit, elle nous conduit à la repentance. Qui produit la vie, qui sauve. La tristesse du fils prodigue, qui dit dans son cœur, je vais rentrer chez moi, je vais dire à mon papa, je ne suis même pas digne d'être son fils, je veux juste être un esclave, un serviteur, c'est bon, une serpillière me suffit, j'ai tellement fait du mal que c'est bon, allez, une petite place, ça me suffit. Il était attristé, au fond de lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis parti faire? Mais cette tristesse-là, selon Dieu, elle produit une vraie repentance. Pour construire des relations véritables sur le fondement de la vérité, le premier point, il faut que le pardon soit vrai. Le deuxième point, il faut que la repentance soit vraie. Un peu comme Zachée. J'aime Zachée dans la parole de Dieu. J'aime cet exemple parce qu'il est extraordinaire. Lorsqu'il accepte Christ, il change de comportement sans que personne lui demande. Dans Luc 19, quand il a invité Jésus, quand les gens virent cela au verset 7, il eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop d'argent, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus, bec à linette. Jésus lui dit, alors aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison, parce que cet homme lui aussi est un fils d'Abraham. J'ai assez touché par Jésus. Il se dit, purée, si j'ai volé, j'ai dû attrister Dieu, je ne me suis pas rendu compte. Il faut que je change ça. Je veux me repentir. Et de lui-même, en lui-même, convaincu par l'amour de Dieu, sans que personne vienne lui prêcher sur les offrandes. Il dit, je rembourse 4 fois plus, sans que personne lui prêche sur la générosité. Il dit, je donne 4 fois plus, et si j'ai volé, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il dit, je veux donner. Son amour est touché par la bonté de Dieu. Son amour est touché par l'amour de Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu te presse, il faut qu'elle trouve une voie pour s'exprimer. Il faut qu'elle trouve une façon pour se manifester. Parce que la repentance invisible envers Dieu doit être visible envers les autres. C'est ça la vraie repentance. Et donc quand tu attristes Dieu, tu fais « Oh !» Oh Seigneur, je veux réparer, mais tu ne répares pas parce que tu es obligé. Tu ne répares pas parce que tu te sens condamné ou coupable. Tu répares parce que tu aimes. Parce que tu t'es senti aimé par le pardon que tu ne méritais pas, que je ne méritais pas. Et ce pardon qui est la justice, qui est la justice de l'amour, si tu préfères. Le pardon, c'est l'amour qui fait justice. Et quand tu reçois ce pardon, tu te sens aimé. Et quand tu te sens aimé, tu as envie d'aimer. Et quand cet amour te remplit, alors à ton tour, tu cherches une façon de l'exprimer. À l'opposé, quand quelqu'un n'aime pas ou quand quelqu'un est rempli de haine, il va chercher une façon pour détruire. Il va chercher une façon pour faire le mal. Mais lorsque quelqu'un est rempli de l'amour de Dieu, il va chercher une façon pour faire le bien. Il va chercher une façon pour l'exprimer. Il va chercher une façon pour aimer. Il va chercher une façon envers les autres pour montrer que Dieu est vivant en lui. La vraie repentance, c'est que personne ne t'oblige à réparer la relation. Mais par amour, tu la répares. Comme Zachée. Tu te dis, wow, j'ai des choses à faire. Là, il faut que je prouve. J'ai attristé Dieu. J'ai attristé ma femme. Ou j'ai attristé mon mari. Ou j'ai attristé un ami. Et tu es attristé. Et tu te dis, zut, qu'est-ce que je peux faire? Et conduit par l'amour. Comme Zachée, l'amour t'éduque. Il n'a eu besoin de personne pour faire un message de la générosité. Ça, c'est la vraie repentance. Ça, ça construit les relations. Ça, ça établit la confiance. Troisième point. Il faut être trouvé vrai dans le temps. Parce que Jean-Baptiste disait « Portez du fruit digne de la repentance. » Mais le fruit, il ne pousse pas du jour au lendemain. La Bible dit que l'amour fait confiance dans 1 Corinthiens 13. Donc Dieu, écoutez bien ceci, nous donne une mesure de confiance par amour. Mais ensuite, cette mesure doit progresser dans le temps. Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement, vous et moi, que même si on est à côté de la plaque Il nous a donné ce qu'il a de plus précieux, Jésus-Christ. Il nous fait confiance. Il ne dit pas, tu ne mérites pas mon fils, toi, hein, parce que tu es un peu trop mauvais. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, toi vraiment, en plus ça fait un moment que tu es chrétien, mais tu es tellement méchant que maintenant j'ai pu te donner le Saint-Esprit. Il nous fait confiance. Alors qu'on n'est même pas digne de confiance. Parce qu'il nous aime. Et nous donne une mesure d'amour et de confiance. Mais quand on l'a, alors on doit faire en sorte qu'une mesure vient deux mesures. Deux mesures vient quatre mesures. Quatre mesures vient huit mesures. Huit mesures vient 16 mesures. Et tu grandis dans la confiance. Parce que pour installer une relation de confiance, il faut être trouvé vrai dans le temps. Vous savez, c'est peut-être pour cette raison qu'il y a un grand décalage horaire entre le temps où Dieu te donne une promesse et il la réalise. C'est parce qu'il veut savoir si toi et moi nous sommes dignes de confiance. Comme lui nous a fait confiance. Nous pouvons augmenter ou diminuer le capital confiance que Dieu nous donne. Est-ce que vous savez ça? Mais comprends bien ceci. Le temps que Dieu nous donne pour lui prouver notre confiance est notre allié. Parce que si on tombe, on peut se repentir. Si on fait une faute, on peut se repentir. L'autre dernier point, pour rétablir la confiance dans les relations, il faut être trouvé vrai dans les tests. Pour porter du fruit digne de la repentance, il y a le facteur temps. Mais il y a aussi le facteur test. Le caractère est éprouvé et développé dans les tests. La confiance est éprouvée et développée dans les tests. C'est là que nous avons l'opportunité d'emmagasiner un capital confiance qui augmente. Vous savez, le vrai toi, c'est lorsque tu es tout seul. Personne ne te voit. Ça, c'est le vrai toi ou le vrai moi. Et le test a cette faculté de venir aligner le vrai toi dans le lieu secret au vrai toi dans le lieu public. Oh. Oh. Avec le temps et les tests, ce que tu es dans le secret va se manifester dans le public. David, un berger, tue le lion et l'ours pour sauver une brebis dans le lieu secret. Dans le public, la fracassée Goliath. Le test, il faut être trouvé vrai dans les tests pour avoir un capital confiance. Parce que les tests nous révèlent nous-mêmes notre propre cœur. À nous-mêmes, on voit. Lorsque tu passes les tests, tu reçois une récompense que tu ne peux pas recevoir autrement. Je répète ça. Parfois, on peut recevoir des miracles ou des récompenses par la déclaration de foi, par exemple. Mais il y a une certaine dimension de récompense qu'on ne peut uniquement recevoir dans les tests. Donc le test est une opportunité non seulement pour éprouver notre confiance, mais aussi pour la développer, la fortifier. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es vraiment digne, sans que tu répondes, est-ce que tu es tellement digne de confiance pour Dieu qu'il est capable de te faire confiance avec des difficultés ? Je prends l'exemple de Marie. Elle n'a pas été choisie parce que c'était une super vierge. Il y avait plein d'autres vierges à l'époque. Mais cette femme qui a porté Jésus, si on regarde bien la parole de Dieu, c'est une femme digne de confiance. Le Seigneur pouvait la faire confiance avec l'adversité. Il savait que ça n'allait pas être facile pour elle et Joseph de dire « Ah, vous n'êtes pas mariée à cette époque surtout ?» Es-tu enceinte ? Ah ben oui, c'est qui le papa ? Dieu. Il savait que ça n'allait pas être facile. Et en plus, Dieu lui dit, voilà, c'est le Fils de Dieu que tu portes. Et quand elle arrive pour le mettre au monde, un hôtel, il n'y a pas de place dans un hôtel. Une chambre d'hôtel, il n'y a pas. Et pourtant la Bible dit que l'agneau immolé a été conçu avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive, avant que les temps soient accomplis, Dieu savait quel temps Jésus allait naître. Mais il a oublié de réserver un hôtel. Et là, Marie peut se dire, attends, c'est le Fils de Dieu, j'ai sa grâce, et un hôtel pour nous, il n'y a pas, t'es ? Pas d'accord. C'est la faveur. Je veux bien, mais un hôtel, il n'y a pas. Ou sinon, après que Jésus est né, Hérode dit maintenant, on tue tous les enfants de moins de 2 ans. Et là, elle doit se dire, c'est ma faute, c'est à cause de moi, à cause de l'enfant que je porte, qu'il y a des milliers de familles qui sont dans la souffrance. Et là, sous la condamnation, c'est ma faute. Cette femme-là était dangereuse. Dieu pouvait lui faire confiance. Dieu pouvait faire confiance à Joseph. C'est pour ça qu'il les a choisis tous les deux pour porter Jésus, pour l'éduquer. En parlant de Joseph d'ailleurs, l'autre Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu aime tous ses frères, tous les fils de Jacob. Dieu nous aime tous, mais il ne pouvait pas faire confiance tout le monde pareil. Mais il y en a un qui pouvait grandement faire confiance, Joseph. Lui, il a passé le test du temps et les tests en même temps. Il a été prouvé vrai. Et Dieu s'est dit, tout le peu de marmaille, là, la dizaine, lui, il est digne de confiance. Les autres, je les aime tellement que je vais l'utiliser, lui, pour les sauver, eux. Être digne de confiance. Grandir dans une relation digne de confiance. De plus en plus fort dans son caractère. Parce que tu es de plus en plus digne de confiance. En construisant ta vie sur la vérité. Est-ce que tu comprends les tests? Tu as la crainte de Dieu et tu sais que là où tu es, il est là. Tu comprends que ta vie secrète n'est pas un secret pour lui. Ça ne devrait pas être nouveau pour nous. Et David, j'aimerais là-dessus cet exemple extraordinaire qu'est le roi David. Je me dis, waouh! Le roi David, Dieu pouvait tellement le faire confiance qu'il a dit, tu seras roi. Il a une parole prophétique du prophète. Et le roi en place le déteste, est jaloux, envie de le tuer. Missionne des gens pour l'armée, pour le tuer lui et ses soldats. Et à deux reprises, il a l'opportunité de tuer ce roi, Saül. Il a une prophétie, il dit tu seras un roi. Il a les circonstances propices. Et là, ses soldats, son soldat qui dit oh, Dieu m'a dit que tu peux. C'est bon, c'est une opportunité qui vient de Dieu. Tue-le et finis avec un coup, quoi. La Bible dit que David, lorsqu'il a coupé le pan du manteau de Saül, son cœur tremblait. Et il dit à ses soldats, je ne porterai pas la main sur le oint de l'Éternel. Dieu a dû prendre plaisir, bec à l'inette, en son serviteur. Dieu a dû prendre plaisir en disant au ciel, en disant, mon fils, et mon fils sera appelé fils de David. Dieu pouvait faire confiance à David à un tel point, non seulement il faisait confiance pour faire face à l'adversité, mais il faisait confiance qu'il allait être capable, en étant libre, de choisir ce qu'il fallait dans les opportunités. David a dit non. C'est une superbe opportunité pour moi, mais Dieu l'a mis là, Dieu le retiendra. Et pourtant, David, moralement, t'es pas au top parfois. Il a fait quelques bêtises. Mais c'était quelqu'un de confiance. Et Dieu l'a choisi lui pour sauver Israël. Et Dieu veut choisir aujourd'hui son église, toi et moi, pour que Christ soit la lumière du monde au travers de nous. Et pour ça, il cherche un peuple de confiance. La confiance pour avoir une relation forte entre Dieu et toi. Celui qui réellement prouve à Dieu qu'il est quelqu'un de confiant, en qui il peut se confier, va avoir une grande assurance. Et Dieu lui confiera beaucoup de responsabilités. Pour qu'il soit meilleur? Non. Pour ses frères. Comme Joseph, pour ses sœurs, pour son peuple. Parce que Dieu nous aime tous pareil. Et il nous a donné tous la même mesure de confiance. Le sang de l'agneau, le Saint-Esprit, la croix et la résurrection. Maintenant, il appartient à chacun d'entre nous, dans une relation de vérité, en pratiquant sa parole qui est la vérité, d'installer une confiance entre Dieu et nous, stable et forte. Jésus est plus que digne de confiance. Amen. Il nous a fait des promesses. Il veut que tu aies une vie riche. Comme il a commencé à guérir les cœurs vendredi, il veut toujours le faire ce matin. Nous sommes tellement dignes de confiance, comprenez bien, que comme on a chanté ce magnifique chant, ton sang, que ce qui nous différencie de toutes les autres créatures créées, ce qui nous différencie des anges, des archanges, ce qui nous différencie des animaux et des autres créatures qui peuvent exister dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans la réalité visible et dans la réalité invisible, ce qui nous différencie, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau. Parce que Jésus dit, mon enfant, il croit en mon œuvre marquée par mon sang. Et les créatures célestes font, waouh, il a la valeur du sang de l'agneau. Les archanges ne peuvent même pas dire ça. Tellement ils nous aiment. Sang de l'agneau, fils de Dieu, fils du roi des rois, fille du roi des rois, sang a coulé pour toi et pour moi, pour briser les chaînes du péché, pour vaincre l'ennemi de notre âme. Quand la parole dit, l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Tu as la valeur du sang de Jésus. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es précieux? Et comment on peut laisser les circonstances ou les autres ou le passé nous faire croire le contraire? Mensonge. Ne te fie pas ou ne crois pas à un mensonge. Crois en la vérité. Et développe une relation de vérité avec celui qui est la vérité, afin qu'il y ait une relation confiante et que l'enfant de Dieu que tu es se révèle fort. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment, s'il vous plaît? Si tu peux venir, Amélie, groupe de louanges.